Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Psachim, page 45, Daf Mem He. Bonne écoute et bon limoud.
Shum David Nazir Vechatat, Shnektubim Abayim Kechad. On ne peut pas apprendre car le Nazir, quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, et le Khatat, ce que nous allons apprendre du sacrifice expiatoire, sont deux versets qui nous apprennent la même chose, Ven Melamdim. Et on ne peut apprendre de deux versets qui nous apprennent la même chose pour tout le reste de la Torah. C'est-à-dire que du Nazir, nous apprenons que Etermit Saref Leitsu, que quelque chose de permis s'associe à quelque chose d'interdit. Du khatat, du sacrifice expiatoire, comme nous allons le voir un peu plus loin, nous apprenons aussi que Eterm Tzaref Leitsu, quelque chose de permis s'associe à quelque chose d'interdit. Or, nous avons une règle dans la Torah qui nous dit que lorsque deux versets viennent nous apprendre la même chose, alors ça veut dire que seulement dans ces deux versets, cette règle s'applique, mais dans tout le reste de la Torah, cette règle ne s'applique pas. Car si cette règle s'appliquait dans tout le reste de la Torah, alors il aurait suffi de dire un seul verset. Pourquoi avons-nous besoin de dire deux versets? Or, étant donné que nous avons dit, si la Torah a cité les deux versets, ça veut dire seulement dans ces deux versets, et pas dans tout le reste de la Torah. Et donc c'est pour cela que seulement à propos du Nazir, quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, et seulement à propos du Khatat, du sacrifice expiatoire, nous disons, et termit saref leissou, que la partie permise s'associe à la partie interdite pour interdire tout le mélange, mais pas à propos de tout le reste de la Torah. Et nous avons fini ici le shiur de Daf Memdalet. Nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf Memhe. Nous avons vu dans le shiur précédent que d'après Rabbi Akiva, du mot Mishrat, qui signifie tout ce qui a été trempé, et le suivi du verset nous dit tout ce qui a été trempé dans le vin est interdit à la consommation à un nazir, quelqu'un qui a fait vœu d'abstention. De ce mot-là, nous apprenons que Issur Mitztaref Leheter, quelque chose d'interdit s'associe à quelque chose de permis pour interdire tout le mélange et nous dire que tout le mélange, lui aussi, devient interdit à la consommation, même s'il n'y a pas une quantité minimale requise de vin pour interdite à la consommation. Et la Gemara nous a dit que c'est une loi spécialement à propos du nazir, quelqu'un à propos de quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, et on ne peut pas la prendre pour toute la Torah. Et la Gemara nous expliquait pourquoi. Car il y a deux versets qui viennent nous apprendre la même chose. Le premier verset, c'est à propos du nazir, comme nous venons de l'expliquer. Et le deuxième verset, c'est à propos du sacrifice expiatoire, comme nous allons le voir. Or, lorsque deux versets viennent nous apprendre la même chose, on ne peut la prendre pour toute la Torah. Et la Gemara explique. Et nous sommes Daf Memhe Amud Alef, deuxième ligne. Nazir, Adam, Nazir, à quelqu'un qui avait vœu d'abstention, comme nous venons de le voir. Khatat, à propos du sacrifice expiatoire, comment apprenons-nous qu'à propos du sacrifice expiatoire, on dit aussi que Issur Mitztaref Leheter, là, quelque chose d'interdit s'associe à quelque chose de permis pour interdire tout le mélange. Maï, qu'en est-il? Détail. Quand nous avons enseigné dans une braïta, Kol Asher Iga Bifsara, Igdash, tout ce qui touchera sa chair sera sanctifiée. Et nous avons donc une règle qui nous dit dans ce verset que toute viande, que ce soit la viande d'un autre sacrifice, ou que ce soit la viande d'une bête profane, si elle touche la viande d'un sacrifice khatat, elle devient sainte comme ce sacrifice en lui-même. Et donc il y a des conditions très spéciales pour la consommer. Il faut que ce soit à l'intérieur du temple, seulement un Kohen, masculin, et seulement durant la journée et la nuit qui suit l'abattage. Et donc, par exemple, si une viande profane, qui elle a le droit d'être consommée par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, a touché de la viande d'un sacrifice expiatoire, cette viande profane devient elle aussi interdite à la consommation à l'extérieur du temple, et interdite à la consommation par quelqu'un qui n'est pas Kohen, et seulement durant la journée et la nuit qui suit l'abattage de ce sacrifice. Yachol afilo lobela. J'aurais pu penser que même si cette viande qui a touché la viande du sacrifice expiatoire n'a rien absorbé de la viande du sacrifice expiatoire, Talmud Lomar, le verset nous dit, bifsara, dans sa viande, et de là nous apprenons, achibala bavasa igdash. Tant que la viande n'a rien absorbé, elle ne devient pas sainte. Dès qu'elle a absorbé, elle devient sainte comme le sacrifice expiatoire. Liot kamoa, pour être sainte comme elle. Shim pesula i tipasel. Si cette viande du sacrifice expiatoire est inapte à la consommation. Alors cette viande qui a touché la viande du sacrifice devient elle aussi inapte à la consommation. Par contre, si elle est apte à être consommée, elle devra, la viande donc du profane ou d'un autre sacrifice qui a touché la viande du sacrifice expiatoire, devra être consommée suivant les lois sévères de la consommation du sacrifice expiatoire. Et donc en fait, que voyons-nous? Que ici, nous avons un morceau de viande profane qui a touché un morceau de viande du sacrifice expiatoire et en a absorbé un petit peu. Et donc nous voyons ici qu'il y a ici une petite partie de sacrifice expiatoire, même pas un kazaït. Et d'un autre côté, nous avons un gros morceau de viande, et nous disons que la partie interdite, c'est-à-dire la viande du sacrifice expiatoire, s'associe à la viande profane, qui est permise à la consommation, pour interdire tout le mélange. Et donc nous voyons ici un second verset qui vient nous apprendre la même chose, et lorsque deux versets viennent nous apprendre la même chose, on ne peut l'apprendre pour toute la Torah. Alors la Gemara demande, Verabanan et les sages, pourquoi eux ne disent-ils pas la même chose que Nazir, quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, et Khatat, quelqu'un, la viande du sacrifice expiatoire, sont deux versets qui viennent nous apprendre la même chose, et donc on ne peut l'apprendre pour toute la Torah. Or, les sages, eux, ont appris autre chose du mot Mishrat. Eux, ils ont appris que le goût est considéré comme étant l'interdit lui-même. Mais ça, on le voit aussi à propos du sacrifice expiatoire, que la viande, étant donné qu'elle a pris un petit peu du goût, du sacrifice expiatoire, devient interdit à la consommation. Donc pourquoi ne disons-nous pas que le sacrifice expiatoire et le nazir viennent nous apprendre la même chose, et donc on ne peut l'apprendre pour toute la Torah cool, pour toute la Torah. Or les sages, eux, l'apprennent quand même pour toute la Torah. Alors Gemara répond, les rabbananami, les sages aussi, niave nazir vechatat shnektumim amayin kechad, que le nazir, quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, et le sacrifice expiatoire soient deux versets qui vient nous apprendre la même chose, ven melamdim, et donc on ne pourra pas l'apprendre pour toute la Torah. Pourquoi les sages apprennent quand même pour toute la Torah? Alors, on me répond, Amre, eux ils disent, Anu mitzratriche. Ces deux versets, nous en avons besoin. Et or, lorsque nous avons besoin des deux versets, alors on n'applique pas la règle que deux versets qui viennent nous apprendre la même chose sont, on ne peut apprendre de ces deux versets pour toute la Torah. Car la raison pour laquelle la Torah a cité ces deux versets, c'est parce qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et donc, c'est pour cela que la Torah a cité ces deux versets. Et donc, nous ne pouvons pas dire que la raison pour laquelle la Torah a cité ces deux versets, c'est pour nous dire que c'est seulement dans ces deux versets que l'on applique cette règle. Et la Gemara va expliquer un peu plus loin pourquoi nous ne pouvons pas apprendre l'un de l'autre. Vers Rabbi Akiva. Et d'après Rabbi Akiva. Alors, pourquoi nous ne disons pas que nous ne pouvons pas apprendre l'un de l'autre? Et si on apprend, et si on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, donc ce ne sont pas deux versets qui viennent nous apprendre la même chose. Alors, la Gemara répond, Maitriré, en quoi avons-nous besoin des deux versets? Bishla maikata vrachmana bechatat, j'aurais pu comprendre si la Torah nous avait écrit qu'à propos du sacrifice expiatoire, logamar nazir miné. Alors j'aurais pas pu apprendre cette loi que isur mitzaref l'éther à propos de quelqu'un qui a fait vœu d'abstention. Pourquoi? De cholin mikotchim, logamrinan, car quelque chose de profane, des choses saintes, on ne peut l'apprendre. Elle a l'irta vrachmana benazir, mais la Torah aurait pu l'écrire qu'à à propos du nazir, de quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, vetiti khatat, vetigwamine, et on aurait amené le sacrifice expiatoire, et on aurait appris l'un de l'autre, de akol et surin cheba Torah, que gamar minazir, car on apprend tous les interdits de la Torah, du nazir. Et donc pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin de citer un verset spécialement à propos du sacrifice expiatoire? Donc si la Torah a cité spécialement un verset à propos du sacrifice expiatoire, cela veut dire que seulement à propos du nazir et de quelqu'un et du sacrifice expiatoire existe cette règle que isso mitzaref l'éther, quelque chose d'interdit s'associe à quelque chose de permis pour interdire tout le mélange. Des rabbanan amrelecha, et les sages te disent que non, on ne peut apprendre l'un de l'autre. Mitzratziché, nous avons besoin de deux versets. Pourquoi? Chatat l'éther mitzaref l'iso, du verset du sacrifice expiatoire, nous apprenons que quelque chose d'interdit s'associe à quelque chose de permis pour interdire tout le mélange. Vechulin mikotchim, logama, et quelque chose de profane, nous ne pouvons pas l'apprendre des choses saintes. Donc, nazir, quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, nous ne pouvons pas apprendre cette règle. Et donc, cette règle n'existera qu'à propos des choses saintes. Ou mishrat, et le mot mishrat qui est cité à propos du nazir, l'itentam keikar, pour nous dire que le goût est considéré comme étant l'interdit lui-même. Donc, ce mot, en fait, ce verset vient nous apprendre complètement une autre règle. Umikan atadan l'école à Torah Kula. Et d'ici, c'est-à-dire qu'à propos du nazir, que ces traits que nous avons appris à propos du nazir, que le goût est considéré comme étant l'interdit lui-même, cette règle, on l'apprend pour toute la Torah. Et donc, en fait, d'après Rabbi Akiva, il se passe que Issour, Mitztaref, Léhéter, cette règle qui nous dit que quelque chose d'interdit s'associe à quelque chose de permis, c'est que à propos du sacrifice expiatoire et à propos de quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, et d'après les sages, à propos de quelqu'un qui est, à propos du sacrifice expiatoire, en nous disant que quelque chose de permis s'associe à quelque chose de permis. Mais à propos de quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, nous ne disons pas cette règle. Nous apprenons autre chose. Que le goût est considéré comme étant quelque chose, que le goût est considéré comme étant l'interdit lui-même. Et cette règle-là qui est citée à propos du nazir de quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, elle est valable pour toute la Torah. Verabi Akiva. Verabi Akiva, c'est donc ce que l'Agma nous dit. Tarvayu l'éter mitzaref l'issour. Ces deux versets, et à propos du sacrifice expiatoire, et à propos du nazir, quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, ça vient nous parler de quelque chose de permis, ça peut s'associer à quelque chose d'interdit pour interdire tout le mélange. Et donc, il se trouve que ce sont deux versets qui viennent nous apprendre la même chose. Et deux versets qui viennent nous apprendre la même chose, on ne peut l'apprendre de ces deux versets pour toute la Torah. Amar le Ravashi le Rav Kana. Alors, Ravashi lui a dit à Rav Kana, et là, Détania, lorsque nous avons appris dans une braïta, Mikol asher yase, migefen ayayin, mecharsanim ve'adzag, lo yochel. Le verset nous dit, il ne mangera d'aucun produit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à l'enveloppe. Et la braïta apprend de là, limed alisur nazir, shemistafim ze imze. Ça vient nous apprendre que les choses interdites à quelqu'un qui a fait vœu d'abstention s'associent l'une à l'autre. Si par exemple, il a mangé un demi-kazaït de peau et un demi-kazaït de raisin, étant donné qu'en tout il y a une quantité de un kazaït de choses interdites, il est passible d'une punition. Alors, Ravashi veut poser une question à Rav Kana de cette braïta. Ashta le Rabbi Akiva, il sauvait un mitzvah. D'après ce que nous venons d'apprendre, donc d'après Rabbi Akiva, à propos de quelqu'un qui a fait vœu d'abstention, quelque chose de permis et quelque chose d'interdit s'associent l'un à l'autre pour rendre tout le mélange interdit. C'est-à-dire s'il y a par exemple moins d'un kazaït de vin et moins d'un kazaït de pain, si en tout il y a un kazaït, tout le mélange est interdit à la consommation. Alors, donc, quelque chose de permis, quelque chose d'interdit, le tout est interdit. Ils sauvent et ils sont mis baïa. Alors, lorsque les deux choses du mélange, les deux parties du mélange sont interdites à la consommation, comme par exemple dans le cas où il a mangé un demi-kazaït de pépin et un demi-kazaït de peau, les deux parties du mélange sont interdites à la consommation, avons-nous besoin d'un pasouk qui nous apprend une chose pareille? Marley, il lui a répondu, ils sauvent et terre bebatachat. Le issour et le éther, c'est-à-dire la chose permise, la chose interdite s'associent l'un à l'autre, lorsqu'ils sont ensemble. Par exemple, lorsqu'il a mangé, il a trempé son pain dans le vin. Issour et issour, mais lorsque les deux parties du mélange sont interdites, bezer harvé, mais s'ils ne sont pas mélangés et qu'il les a mangés l'un après l'autre, c'est interdit. Par exemple, il a mangé un demi-kazaït de pépin, et après cela, il mange un demi-kazaït de peau. Il n'a pas mélangé ensemble et les deux ensemble et les a mangés. Non, il a mangé l'un après l'autre. Même l'un après l'autre, lorsque les deux sont interdits, ça s'associe et c'est donc interdit à la consommation. Et c'est donc ça ce que Rabbi Akiva, et c'est donc ça ce que la Braïta vient nous apprendre en plus de l'enseignement de Rabbi Akiva. Nous continuons le shiur de Daf Memhe. Nous sommes Daf Memhe Amud Alef à la Mishnah. La Mishnah nous dit, Batek shebesitke areva, de la pâte qui se trouve dans la fente d'une bassine. À l'époque, les bassines étaient très souvent faites en argile, et il arrivait donc que la bassine se fende. Et donc, dans cette fente, il y a de la pâte qui rentrait. Alors, que devons-nous faire avec cette pâte lorsqu'arrivait la fête de Pessah? Im yesh kazaït bim komecha, alors l'Agma nous dit, si, la Mishnah nous dit, s'il y a une quantité de un kazaït à un seul endroit dans une seule fente, alors il est obligé d'éliminer cette pâte qu'il y a dans la fente. Vehimlao, mais sinon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une quantité de un kazaït, batel bemiuto, ça s'annule dans les parois de la bassine, et c'est considéré comme étant la bassine elle-même, c'est considéré comme faisant partie de la bassine, et donc on n'a pas besoin de le détruire. Et il en est de même à propos des lois d'impureté. Car il y a une règle qui nous dit, lorsqu'une bassine touche une source d'impureté, cette bassine elle-même devient impure. Mais s'il y a quelque chose qui fait interruption entre la bassine et la source d'impureté, la bassine ne devient pas impure. Et donc, si nous considérons cette pâte comme faisant partie intégrante de la bassine, et que la source d'impureté a touché cette pâte, donc la bassine elle-même devient impure. Mais si nous ne la considérons pas comme faisant partie intégrante de la bassine, mais comme étant quelque chose séparé, donc cette pâte fait interruption entre la bassine et la source d'impureté, et donc le morceau de pâte devient pur, mais non pas la bassine. C'est ce que la Mishnah nous dit. Et il en est de même au propos de Touma. Im makpid alav, si ce morceau de pâte le dérange et qu'il veut l'enlever, recette, alors à ce moment-là, c'est considéré que ça fait interruption, et donc c'est pour cela que la bassine ne deviendra pas impure. Bien, rotebekiumo. Mais s'il veut le laisser là-bas, c'est-à-dire s'il veut laisser le morceau de pâte à l'endroit où il est, par exemple, s'il est dans la paroi de la bassine et qu'il veut le laisser là-bas pour, par exemple, fortifier, pour boucher la fente, Areu Kareba, c'est considéré comme étant la bassine elle-même, et si une source d'impureté a touché, même si elle n'a touché que le morceau de pâte, alors à ce moment-là, toute la bassine devient impure. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel. Lo shanu elab mikom she'en asuim lechazek. Tout ce qui a été enseigné dans la Mishnah, qu'il y a une différence entre plus d'un kazaït ou moins d'un kazaït, c'est seulement si ce morceau de pâte n'est pas fait pour renforcer la paroi de la bassine. Aval, bimkom shasuim lechazek. Mais si ce morceau de pâte est fait pour renforcer la paroi de la bassine, eno chayav levaer. Il n'a pas besoin de l'éliminer, même si c'est une quantité de plus d'un kazaït. Car étant donné qu'il a mis ce morceau de pâte pour renforcer la paroi de la bassine, en fait, nous considérons ce morceau de pâte comme étant un morceau d'argile, et donc c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de l'éliminer. Et la Gemara prend de là, michlal, donc cela veut dire, des pachot mi kazaït, qu'une quantité moins d'un kazaït, afilu bimkom shen asui li chazek, même dans les endroits où on n'a pas besoin de ce morceau de pâte pour le renforcer, et nos chalavet lever, on n'a pas besoin de l'éliminer. C'est donc ce qui est écrit dans la Mishnah. Ika de matnela sefa. Il y en a qui disent cet enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel sur la fin de la Mishnah. Dans la fin de Mishnah, il est dit veim lav, et sinon, c'est-à-dire s'il y a moins d'un kazaït, batel bemiuto, ça s'annule dans les parois de la bassine. Ama Rav Yehuda ma Shmuel, Rav Yehuda au nom de Shmuel, lo shanu el abimkom asu lechazek. Cette loi n'a été dit que dans un endroit où le morceau de pâte est fait pour renforcer la bassine, c'est-à-dire pour boucher la fente. Aval bimkom shen asu lechazek, mais s'il n'est pas fait pour renforcer la fente, chayav lever, il est obligé de l'éliminer, même si c'est moins d'un kazaït. Michal, donc cela veut dire des kazaït, que lorsqu'il y a une quantité d'un kazaït, afilu bimkom asu lechazek, même si c'est dans un endroit qui est fait pour fortifier la farine, la bassine, chayav lever, on sera obligé de le détruire. Et donc en fait, dans ces deux façons d'expliquer la Mishnah, nous avons une double discussion. Nous avons une première discussion lorsque il y a moins d'un kazaït, dans un cas où le morceau de pâte n'est pas fait pour fortifier la bassine, d'après la première explication, il sera permis de le laisser là-bas, car étant donné qu'il y a moins d'un kazaït, d'après la seconde explication, il sera interdit de le laisser là-bas, car on n'a pas besoin de ce morceau de pâte. Et la deuxième discussion, c'est dans un cas où il y a plus d'un kazaït pour fortifier la bassine. Alors, s'il y a plus d'un kazaït, d'après la première explication, il sera permis de le laisser là-bas, car c'est fait pour fortifier la bassine. D'après la deuxième explication, il sera interdit de le laisser là-bas, car il y a une quantité de plus d'un kazaït. Et même si c'est pour fortifier la bassine, ça nous est égal, étant donné qu'il y a plus d'un kazaït. Alors maintenant, l'Agma nous dit, Tanya Kelishna Kama, Tanya Kelishna Batra. Nous avons vu une braïta qui suit la première explication, nous avons vu une braïta qui suit la seconde explication. Et l'Agma rapporte immédiatement ces deux braïtot. Tanya Kelishna Kama. Nous avons vu une braïta qui suit la première explication. Batek Shebesitke Areva. De la pâte qui se trouve dans les fentes d'une bassine. Bimkom Asu Lechazek. Si c'est dans un endroit qui est fait pour fortifier la bassine, pour la renforcer, et nos chotets, ve'en over. Alors ce morceau de pâte ne peut faire interruption entre une source d'impureté et la bassine, et on ne transgresse pas d'interdit si on garde ce morceau de pâte durant Pessah. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les détruire. Car étant donné qu'il est fait pour fortifier, nous le considérons comme étant la bassine elle-même. Ou bien comme chez Nassoui le Chazek, mais si ce morceau de pâte n'est pas fait pour renforcer la bassine, Chotet, alors à ce moment-là, il fait interruption entre la source d'impureté et la bassine elle-même, Véover, et si on le garde durant Pessah, on transgresse un interdit, car en fait, on n'a pas besoin de ce morceau de pâte, et donc ce n'est pas considéré comme étant la bassine elle-même, mais c'est considéré comme étant de la pâte, et on n'a pas le droit de garder la pâte durant Pessah. Bamed varim amourim, et dans quel cas les choses ont été dites? Bekazait, seulement lorsqu'il y a une quantité de plus d'un kazait. Aval bepachot mi kazait, mais s'il y a une quantité moins d'un kazait, afilu bimkom she'en asu lechazek, même si on n'en a pas besoin pour renforcer la bassine, enochotet ve enover. Le morceau de pâte ne fait pas interruption entre la source d'impureté et la bassine elle-même, car il est considéré comme étant la bassine elle-même, et on ne transgresse pas d'interdit si on garde ce morceau de pâte durant la fête de Pessah. Et donc, en fait, la seule chose qui est interdite, c'est lorsqu'il y a une quantité de plus d'un kazaït qui n'est pas fait pour renforcer la bassine. Mais tout le reste, s'il y a une quantité de moins d'un kazaït, ou s'il y a une quantité de plus d'un kazaït pour renforcer la bassine, dans tous les cas, il sera permis de la garder. Vetanya kelishne batra. Et nous avons enseigné, comme la seconde façon d'expliquer la Mishnah, batek shebesidke areva, de la pâte qui se trouve dans les fentes d'une bassine. Bimkom asu lechazek. Si cette pâte est faite pour renforcer la bassine.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante. Daf memhe amudbet, eno chotet ve eno over. Ce morceau de pâte ne fait pas interruption entre la source d'impureté et la bassine, et on ne transgresse pas un interdit si on le garde durant Pessah. Car ce morceau de pâte est considéré comme étant la bassine elle-même, étant donné qu'il est fait pour renforcer la bassine. Bimkom she'en asu lechazek. Par contre, si c'est dans un endroit où il n'est pas fait pour renforcer la bassine, chotet ze'over, il fait interruption entre la source d'impureté et la bassine, ze'over, et on transgresse un interdit si on le garde durant Pessah, car ce n'est pas considéré comme étant faisant partie de la bassine, mais c'est un morceau de pâte, et donc on n'a pas le droit de le garder. Bamed varim mamurim, dans quel cas les choses ont été dites, qu'il y a une différence si c'est fait pour renforcer ou pas, mais pachot mi kazait, seulement s'il y a une quantité moins d'un kazait. Aval be kazait, mais s'il y a une quantité plus d'un kazait, afilu bimkom asui lechazek, même si c'est dans un endroit qui est fait pour renforcer la bassine, chotet ze'over, et ça fait interruption entre la bassine et la source d'impureté, et on transgresse un interdit si on le garde durant Pessah. Et donc, en fait, suivant cette seconde braïta, qui suit en fait la deuxième explication, dans tous les cas, il sera interdit de garder un morceau de pâte qui est dans la fente de la bassine, sauf s'il y en a moins d'un kazaït et que cela est fait pour renforcer la bassine. Alors, la Gemara demande, Kashiana Adade, ces deux braïtotes se contredisent. D'un côté, nous voyons que dans tous les cas, c'est permis, sauf s'il y a plus d'un kazaït et que ce n'est pas fait pour renforcer. Et d'un autre côté, nous voyons que dans tous les cas, cela est interdit, sauf s'il y en a moins d'un kazaït et que c'est fait pour renforcer. Donc c'est une contradiction. La Gemara répond, Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Same kilta mikame chamirta. Il faut effacer la braïta la moins sévère devant la braïta la plus sévère. Et donc garder seulement la seconde braïta. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dit, Tanae shakalt me'alme. Il n'y a-t-il plus de Tanaïm dans le monde? Pourquoi dis-tu qu'il faut effacer une braïta? Tanaï! C'est une discussion entre les Tanaïm. Et donc il y a un Tana qui a enseigné cette braïta, et un Tana qui a enseigné la seconde. Et c'est une discussion. Il n'y a pas besoin d'effacer une braïta. Des Tanya, comme nous avons enseigné dans une braïta. A pat chez Ipsha. De la pâte qui est à moisi. Chayav levaer. On est obligé de la détruire. Mipne sheraou leshorka. car on peut encore la moudre, ou les chameaba, kama isot acherot. Et grâce à cette pâte, faire monter et faire fermenter d'autres pâtes, même si elle est moisie. Rabbi Shimon ben Elazar omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, bamet dvarim amourim, dans quel cas les choses ont été dites, bemekuyem et l'achila, si on garde cette pâte pour la consommer. Aval kupat seor shiichda leishiva, mais un morceau de levain qui a tellement séché, qui est devenu dur, et qu'il a dit, et il a décidé de le garder pour l'utiliser en tant que tabouret, par exemple, betela, alors à ce moment-là, son nom de pain, de levain a été annulé, maintenant ça devient un tabouret, et on a le droit de le garder. Alors, Gmara va prendre. Mide amar Reb Shimon ben Elazar betela, du fait que Reb Shimon ben Elazar a dit que son nom de levain a été annulé, Michlal de Tanakama Savar lo betela. Cela veut dire que Tanakama pense qu'il n'a pas été annulé. Alma Kassavar, donc cela veut dire que Tanakama pense, Kol Kazaït, chaque quantité de plus de un Kazaït de Chametz ou de levain, Afalgav de Mevatel, bien qu'il annule le nom, qu'il veut annuler le nom de Chametz qu'il y a sur ce Kazaït, Lobatil, cela s'annule pas. Et donc en fait, la discussion entre la première façon d'expliquer la Mishnah et la seconde façon d'expliquer la Mishnah, et entre la première Baïta et la seconde Baïta, et la discussion entre Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce que lorsqu'il y a plus d'un kazaït dans la fente de la bassine, si on a décidé de le laisser là-bas, donc en fait on a annulé le nom de levain et de pâte de cette pâte, et on le considère en tant qu'un morceau d'argile pour boucher la fente. Alors d'après Rabbi Shimon, ça s'annule, et on a le droit de le laisser là-bas. Et d'après Tanakama, cela ne s'annule pas et on n'a pas le droit de le laisser là-bas. Et donc, en fait, c'est ça la discussion entre la première Braïta et la seconde Braïta. Amarle Abaye. Alors, Abaye lui a dit, Tarit Bekazait. Tu as répondu la discussion qu'il y a dans plus d'un Kazait. Nous avons vu qu'il y a deux discussions. Il y a premièrement une discussion dans moins d'un Kazait lorsque ce n'est pas fait pour renforcer. Il y a deuxièmement une discussion lorsqu'il y a plus d'un Kazait lorsque c'est fait pour renforcer. Alors, c'est vrai. D'après ça, nous avons expliqué la deuxième discussion. Pachod mi kazaït mi taras. Mais avons-nous expliqué la discussion lorsque c'est moins d'un kazaït, lorsque ce n'est pas fait pour renforcer? Nous n'avons pas vu que Rabbi Shimon pense que lorsqu'il y a moins d'un kazaït et que ce n'est pas fait pour renforcer, que l'on a le droit de l'utiliser? Ça, nous n'avons pas vu. Et donc, nous ne pouvons donc pas dire que la première braïta suit l'opinion de Rabbi Shimon. Alors, Agma répond, non. Alors, en effet, il faut dire une autre réponse. Elle a avéa Rabbi Shimon ben Elazar. Les deux braïtot suivent l'opinion de Rabbi Elazar. Velo kasha, et malgré tout, ce n'est pas une contradiction. Habim komisha, hachelobim komisha. Ici, nous parlons dans un endroit où l'on pétrit la pâte. Ici, nous parlons dans un endroit où l'on ne pétrit pas la pâte. Et il faut expliquer. Dans une bassine, il y a trois endroits. Il y a premièrement le fond de la bassine, qui est fait pour, dans lequel on verse l'eau, et donc pour récupérer l'eau et que l'eau se tienne là-bas. Il y a les parois que l'on utilise lorsqu'on pétrit la pâte, et il y a le haut des parois qui n'est pas du tout utilisé. Et il y a une différence entre les deux braïtas. Comment expliquer l'endroit des parois où l'on pétrit la pâte? Est-ce considéré un endroit, s'il y a une fente là-bas et que l'on le remplit de pâte, est-ce que c'est considéré comme étant pour renforcer la bassine ou pas? Alors la première braïta nous dit que boucher une fente et utiliser la pâte pour renforcer la bassine, c'est seulement dans le fond. Et donc c'est pour cela que, même s'il y a plus d'un kazaït ou moins d'un kazaït, on a le droit de l'utiliser, car c'est nécessaire et c'est sûr que l'on ne va pas en venir à prendre ce morceau de pâte et à le manger. Donc qu'il y ait plus d'un kazaït ou moins d'un kazaït pour boucher la fente, on a le droit de le laisser là-bas si on a décidé de le laisser là-bas. Par contre, dans les parois, à l'endroit où l'on pétrit la pâte, alors ça dépend. S'il y a plus d'un kazaït, il est interdit de le laisser là-bas. S'il y a moins d'un kazaït, il est permis de le laisser là-bas. Car s'il y a moins d'un kazaït, étant donné qu'on a décidé de le laisser là-bas, c'est considéré comme faisant partie des parois. Et donc, on ne transgresse pas l'interdit si on le garde chez nous, Pessah. Par contre, s'il y a plus d'un kazaït, étant donné que ça a une importance en soi-même, alors on n'a pas le droit de le laisser là-bas. Et la seconde braïta, lorsqu'elle vient nous dire que pour renforcer, pour, lorsqu'on veut renforcer, alors il y a une différence entre plus d'un kazaït et moins d'un kazaït, elle ne nous parle pas du fond de la bassine, car dans le fond de la bassine, elle est d'accord avec la première braïta, que qu'il y ait plus d'un kazaït ou qu'il y ait moins d'un kazaït, on a le droit de le laisser là-bas. Lui, la seconde braïta nous parle dans un cas où on a mis cette pâte dans les parois. Et donc la seconde braïta nous dit que la pâte dans les parois, alors si c'est pour renforcer les parois, s'il y a plus d'un kazaït, c'est interdit de la laisser là-bas. S'il y a moins d'un kazaït, il est permis de la laisser là-bas. Et donc en fait, il est tout à fait d'accord avec la première braïta, car la première braïta a aussi dit que dans les parois, s'il y a plus d'un kazaït, c'est interdit. S'il y a moins d'un kazaït, c'est permis. Seulement la première braïta a appelé les parois que c'est un endroit qui n'est pas fait pour renforcer la bassine. Et la seconde braïta appelle les parois un endroit où on en a besoin pour renforcer la bassine. Et la seconde braïta, lorsqu'elle nous parle d'un endroit qui n'est pas fait pour renforcer la bassine, et que dans ce cas-là, qu'il y ait plus d'un kazaït ou moins d'un kazaït, on n'a pas le droit de garder le morceau de pâte là-bas, la seconde braïta pense au haut des parois, à l'endroit que l'on n'utilise même pas pour pétrir, et ça, tout le monde est d'accord qu'il y ait plus d'un kazaït ou qu'il y ait moins d'un kazaït, on n'a pas le droit de laisser la pâte là-bas. Amar Ravashi, Ravashi a dit, l'otema ne dit pas, chez l'obimkom nisha, que l'endroit que l'on n'utilise pas pour pétrir, agba d'agna, c'est la partie extérieure de la bassine, et là, asifta d'agna, mais c'est même le rebord de la bassine est appelé un endroit que l'on n'utilise pas pour pétrir. L'agma demande, pshita, c'est évident, le rebord de la bassine, on ne l'utilise pas pour pétrir. L'agma répond, non. Maoud et Tema, j'aurais pu penser dire Zimna de Atif ou Mate de Atam. Des fois, la pâte déborde et elle arrive là-bas, Kamashmana. Et donc, c'est considéré comme étant un endroit que l'on utilise pour pétrir, Kamashmana, c'est ce que ça veut nous apprendre, que le rebord de la bassine n'est pas utilisé pour pétrir, même si des fois on l'utilise, mais en général ce n'est pas utilisé. Et donc, c'est pour cela que qu'il y ait moins d'un kazaït ou qu'il y ait plus d'un kazaït, on n'a pas le droit de le laisser là-bas. Amar Rav Nachman Amarav, Rav Nachman a dit au nom de Rav, Halakha ki Rav Shimon ben Elazar, que la loi est fixée suivant l'avis de Rav Shimon ben Elazar, et par exemple, un morceau de levain qui a tellement durci et qu'on a décidé de l'utiliser en tant que tabouret, on a le droit de le garder durant Pessah, et on ne transgresse pas l'interdit. L'Agma a demandé, ni, ah bon, vers Amar Rav Yitzhak Barashi, pourtant Rav Yitzhak Barashi a dit Amar Rav au nom de Rav, im tachban panea betit, betela, que s'il a recouvert de chaud, alors à ce moment-là, elle perd son nom de levain. Et donc de là, nous apprenons tar-in, seulement s'il a recouvert de chaud, oui, alors à ce moment-là, elle perd son nom. L'otar, par contre, s'il ne l'a pas recouvert de chaud, l'eau, elle ne perd pas son nom. Et donc, en fait, la loi n'est pas fixée suivant l'avis de Rav Shimon ben Elazar. Alors, comment répond, man de matneha, lo matneha, celui qui a enseigné cet enseignement que la loi est fixée suivant l'avis de Rav Shimon ben Elazar, n'a pas enseigné qu'il faut le recouvrir de chaud. Et celui qui a enseigné qu'il faut le recouvrir de chaud, n'a pas enseigné que la loi est fixée suivant l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Ikadamre, il y en a qui disent cet enseignement différemment. Amar Rav Nachman Amarav, Rav Nachman Andiron de Rav, en alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. La loi n'est pas fixée suivant l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Damar Rav Yitzhak Barashi Amarav, car Rav Yitzhak Barashi a dit au nom de Rav, im tach panea betit, betela. S'il l'a recouvert de chaud, alors elle perd son nom. Mais sinon, non. Or, d'après Rabbi Shimon, mais si on ne l'a pas recouvert de chaud, elle perd son nom. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Rav Nachman a dit au nom de Shmuel. Shnei chatzai zetim. Deux morceaux de moins de un kazaït de pâte. Vechut shel batzek benem. Et un filet de pâte les relie. Roim. Alors on regarde. Kol sheilu yinatel achut. Venitalim imo, si lorsqu'on prend ce filet de pâte, ces deux morceaux de moins d'un kazaït chacun sont pris avec ce filet, chayav levaer, alors on est obligé de le détruire, car nous disons que ce fin filet de pâte les relie, et donc il y a ici une quantité de plus d'un kazaït, et donc on est obligé de le détruire avant Pessah. Veim lav, mais sinon, et nos chayav levaer, on n'est pas obligé de le détruire, car c'est considéré comme étant deux morceaux de moins un kazaït chacun, et on n'est pas obligé de le détruire avant Pessah. Amar Oula a dit, Lo Amran et la Be'areva, toute étoile n'a été dit que lorsque les deux morceaux de moine à kazaït sont dans une bassine. Aval babait, mais s'ils sont dans la maison, chayav les verres, on est obligé de les détruire, même s'ils sont complètement séparés. Maïtama, pour quelle raison? Des imin de kanish leu, des fois, lorsqu'on balaye, on va les regrouper, venav les gabé adade, ils vont tomber ensemble et ça va faire un morceau de plus d'un kazaït, et on va le transgresser un interdit si on le garde chez soi Pessah. Amaroula, Oula a dit, Baoube Marava, à l'ouest, on s'est posé la question, et ici l'intention est bien sûr en Eretz Israël, on s'est posé la question qui était à l'ouest de Babel. Baït Valia, qu'en est-il? Est-il un morceau à la maison et un morceau à l'étage? Est-ce que l'on craint que le morceau va tomber de l'étage dans la maison et ils vont se racoler, ils vont arriver à une quantité de nakazait? Ou seulement lorsque c'est dans la maison, sur le même étage, on craint? Mais d'un étage à l'autre, on ne craint pas. Mao, qu'en est-il? Baït Vaksadra, quelle est la loi dans le cas d'une maison et une véranda? Alors peut-être on peut se dire que au rez-de-chaussée et à l'étage, ça peut tomber de l'un à l'autre. Mais de la maison à la véranda, ça ne peut pas se coller, car on ne balaye pas entre une maison et une véranda. On balaye chacun séparément. Et donc il n'y a pas à craindre que les deux morceaux se collent. Mao, alors qu'en est-il? Shnei batim zelifimise. Et même si on veut dire que peut-être qu'entre une maison et une véranda, ça va se coller l'un à l'autre, lorsqu'il y a deux maisons, une à l'intérieur de l'autre, qu'en est-il? C'est sûr que chacun balaye sa maison à part et les deux morceaux ne vont pas en venir se coller. Ou peut-être que l'on doit craindre étant donné que finalement c'est sur le même étage, peut-être qu'ils vont venir en se coller. Qu'en est-il? Est-ce qu'on doit le craindre ou pas? Alors Gmat Tekun nous dit que ça reste en doute. Tanou Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. A pat chez Ipsha, du pain qui a moisi. Venif selam il yechol le adam, et un homme ne peut plus le manger. Vakelev yechol le ochla, mais un chien peut quand même le manger. Metama tumat ochlim bekabetsa, elle est considérée encore comme étant de la nourriture pour recevoir l'impureté s'il y a une quantité de un kabetsa comme un œuf. Venisrefet imatmea bepesach, mais si c'est de la terouma et que cette terouma n'est pas impure, on a le droit de la brûler avec la terouma impure avant Pessah, car de toute façon, cette terouma n'est pas apte à être consommée, et donc il n'y a pas un interdit de la rendre impure. Mishum Rav Natan Amro, au nom de Rav Natan, ils ont dit, Enam Itama, ce morceau de pain qui a moisi ne peut devenir impur, car étant donné qu'il n'est plus apte à être mangé par un homme, même s'il est apte à être mangé par un chien, mais ça ne peut plus, ce n'est pas considéré de la nourriture. Alors l'agma demande, Keman Azla Aditnan, quelle opinion suit ce que nous avons enseigné dans une Mishnah? Klal Amru Betaharot, une loi a été dite à propos des règles de pureté. Kol Amiyuchad Leochel Adam, chaque chose qui est utilisée spécialement en tant que nourriture pour l'homme, Tamé, ça reste impur et ça peut recevoir l'impureté. Achi pasel milechol la kelev, jusqu'à que cette nourriture devient inapte à la consommation, même au chien. C'est-à-dire que même si ça a perdu le nom de nourriture d'un homme, par exemple dans un cas où ça a moisi, si un chien peut le manger, c'est considéré comme étant encore de la nourriture et ça peut recevoir l'impureté. Alors Keman, quelle opinion cela suit? De l'oké Rav Natan, cela ne suit pas l'opinion de Rav Natan. Tanou Rabbanan, le sage nous enseignait. Arevat Avdanim, la bassine qui est utilisée par les personnes qui travaillent les pots, chez Nathan le Torah Kemach, dans laquelle il a mis de la farine. Tor Shlosha Yamim, si c'est moins de 3 jours avant Pessah, Chayav Levaer, on sera obligé de détruire et d'éliminer cette farine qu'il y a dans cette bassine. Kodem Shlosha Yamim, par contre, s'il a mis cette farine plus de 3 jours avant Pessah, Eno Chayav Levaer, on ne sera pas obligé de la détruire. Car étant donné que c'est un endroit où on travaille les pots, cette bassine est vraiment dégoûtante. Et donc, étant donné qu'elle est dégoûtante, s'il y a de la farine qui reste de là-bas plus de 3 jours, il n'est plus possible de l'utiliser pour la consommer. Donc, elle a perdu le nom de Khamet, et on a le droit, on n'est pas obligé de la détruire durant Pessah. Amar Rav Natan, Rav Natan a dit, Bamed Vamrim Amurim, dans quel cas les choses ont été dites, Shelo Natan le Tocha Orot, seulement dans un cas où il n'a pas mis dans cette bassine des pots à travailler. Aval Natan le Tocha Orot, mais si en plus de la farine il a rajouté des pots, Afilu tor shlosha, même si c'est moins de trois jours avant Pessah, en chayav levar, on ne sera pas obligé de détruire cette farine, car étant donné qu'il a mis des pots dans cette farine, la farine devient dégoûtante et elle n'est plus, il n'est plus possible de l'utiliser, et donc on n'est pas obligé de la détruire durant Pessah, avant Pessah. Amar Rava, Rava nous dit, halakha ki Rav Natan, la loi est fixée, suivant l'opinion de Rav Natan, afilu yom echad, afilu shachat, même si ce n'est là-bas qu'un jour, et même si ce n'est là-bas qu'une heure, que durant une heure il y a eu des pots et de la farine ensemble, la peau est tellement dégoûtante que ça rend inapte la farine à la consommation, et donc on n'aura plus besoin de la détruire. La Gemara apporte maintenant un extrait de la Mishnah. Nous avons vu que durant la fête de Pessah, il y a une différence s'il y a plus d'un kazaït ou moins d'un kazaït dans la fonte de la bassine. Et la Gemara nous dit, il en est de même à propos des lois d'impureté. Ça dépend si ça le dérange ou si ça ne le dérange pas. Alors la Gemara demande, la Gemara apporte cet extrait. V'chen l'inyan d'uma, il en est de même à propos des lois d'impureté. Im makpid alav chotet, si ça le dérange, alors ce morceau de pâte fait interruption. V'im rutse bekiyumo, mais s'il veut le laisser là-bas, areu ki areva, et c'est considéré comme étant la bassine elle-même. Alors la Gemara demande, midame, est-ce que cela ressemble? Hatam, là-bas, à propos de Pessah, beshura talia milta. La chose dépend de la quantité de pâte qu'il y a dans cette fente. S'il y a plus d'un kazaït, il doit la détruire. S'il y a moins d'un kazaït, il n'est pas obligé de la détruire. Acha, par contre, ici, à propos des lois d'impureté, bekpeda talia milta. La chose dépend, est-ce que ça le dérange ou pas? Si ça le dérange, ça fait séparation. Si ça ne le dérange pas, ça ne fait pas séparation. Azama Rav Yehuda, alors Rav Yehuda a répondu, ima, il faut dire, ulinyan atuma enoken, que à propos des lois d'impureté, ce n'est pas ainsi. C'est-à-dire, à propos de Pessah, ça dépend de la quantité, et à propos des lois d'impureté, ça dépend si ça le dérange ou pas. Amar le Abaye, et alors Abaye lui pose la question, comment peux-tu dire une chose pareille? Havechen enyan tuma ksane, pourtant il est écrit dans la Mishnah, et il en est de même pour les lois d'impureté, et donc Pessah ressemble aux lois d'impureté. Alors comment peux-tu dire que ce sont deux choses complètement différentes? Et nous avons fini ici le shiur de Daf Memhe. Nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf Memvav. La Gemara a rapporté un extrait de la Mishnah qui nous dit que de même que durant Pessah, s'il y a de la pâte qui s'est collée dans une fente d'une bassine, s'il y a plus d'un kazaït, on doit la détruire, et s'il y a moins d'un kazaït, on ne doit pas la détruire. Il en est de même à propos des lois d'impureté. S'il y a de la pâte qui s'est collée dans une fente, alors si ça le dérange, ça fait séparation entre une source d'impureté et la bassine. Si ça ne le dérange pas, ça ne fait pas séparation. Et la Gemara posait la question, est-ce que ce sont deux choses qui se ressemblent? Ce n'est pas vrai. À propos des Pessah, cela dépend de la quantité de pâte qu'il y a. Et à propos des Pessah, et à propos des lois d'impureté, ça dépend si ça le dérange ou pas. Alors la Gemara a rapporté une première réponse qu'elle a refutée. Alors maintenant la Gemara va rapporter une seconde réponse. Et nous sommes dans le même Amoudbet, dernière ligne. Et là, Amar Abaye, alors Abaye a dit, Achikama, c'est ainsi qu'il faut dire. Vechen, il en est de même.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.